Chapitre 3. Le jour suivant, quand le dernier d'entre nous eut répondu présent à l'appel de son nom, « Formez le cercle, marche !» commanda le petit lieutenant. Et d'une voix anonnante, brouillant les mots, sautant des phrases, le fourrier lut un pompeux ordre du jour du général. Il était dit dans ce morceau de littérature militaire qu'un corps d'armée prussien, affamé, mal vêtu, sans armes, après avoir occupé Chartres, s'avançait sur nous à marche forcée. Il fallait lui barrer la route, le refouler jusque sous les murs de Paris, où le vaillant Ducrot n'attendait plus que nous pour sortir et balayer une bonne fois tous les envahisseurs. Le général rappelait les victoires de la Révolution, l'expédition d'Égypte, Austerlitz, Borodino. Il affirmait que nous saurions nous montrer dignes de nos glorieux ancêtres de Sambre-et-Meuse. En conséquence, il donnait des instructions stratégiques précises pour la défense du pays, établir une barricade infranchissable à l'entrée est du bourg, une autre plus infranchissable encore sur la route de Chartres, en avant du carrefour, créneler les murs du cimetière, abattre le plus d'arbres qu'on pourrait dans la forêt, de façon que les cavaliers ennemis et même les fantassins fussent dans l'impossibilité de nous tourner par Senonche en s'égaillant dans les futaies et se défier des espions. Enfin, ouvrir l'œil et le bon. La patrie comptait sur nous. Vive la République ! Ce cri resta sans écho. Le petit lieutenant qui se promenait en rond, les mains croisées derrière le dos, l'œil obstinément fixé à la pointe de ses bottes, ne leva pas la tête. Nous nous regardions ahuris, avec une sorte d'angoisse du cœur, de savoir que les Prussiens étaient si près, que la guerre allait commencer pour nous demain, aujourd'hui peut-être. Et j'eus la vision soudaine de la mort rouge, debout sur un char que traînaient des chevaux cabrés et qui se précipitait vers nous en balançant sa faux. Tant que la bataille était loin, nous l'avions désirée, d'abord par enthousiasme patriotique, ensuite par fanfaronnade, plus tard par énervement, par lassitude, comme dénouement à nos misères. Et maintenant qu'elle s'offrait, nous en avions peur. Nous frissonnions à son seul nom. Instinctivement, mes yeux se portèrent vers l'horizon, dans la direction de Chartres. Et la campagne me sembla contenir un mystère, une épouvante, un inconnu formidable, qui prêtait aux choses des aspects nouveaux d'inexorabilité. Là-bas, au-dessus de la ligne bleuissante des arbres, je m'attendais à voir, tout à coup, des casques surgir, étinceler des baïonnettes, s'embraser la gueule tonnante des canons. Un champ de labour, tout rouge sous le soleil, me fit l'effet d'une mare de sang. Les haies se déployaient, se rejoignaient, s'entrecroisaient, pareils à des régiments hérissés d'armes, de drapeaux, évoluant pour le combat. Les pommiers s'effarèrent comme des cavaliers emportés dans une déroute. « Rompez le cercle, marche !» cria le lieutenant. Tout bête, les bras ballants, nous piétinâmes longtemps sur place, en proie à un malaise vague, essayant de franchir par la pensée cette terrible ligne d'horizon au-delà de laquelle s'accomplissait le secret de notre destinée. Seul, en cet inquiétant silence, en cette immobilité sinistre, voitures et troupeaux passaient sur la route, plus nombreux, plus pressés, se hâtaient davantage. Un vol de corbeaux qui venait de là-bas, noir avant-garde, tacha le ciel, grossit, s'enfla, allongea, tournoya, flotta au-dessus de nous comme un voile funéraire, puis disparut dans les chênes. « Enfin, nous allons donc les voir, ces fameux Prussiens !» dit d'une voix mal assurée un grand diable qui était très pâle et qui, pour se donner l'air crâne d'un vieux reître, rabattit son képi sur l'oreille. Aucun ne répondit et plusieurs s'éloignèrent. Pourtant, notre caporal haussa les épaules. C'était un tout petit homme effronté, au visage grêlé et rempli de boutons. « Oh, moi !» fit-il. Il expliqua sa pensée dans un geste cynique, s'assit sur la bruyère, bourra sa pipe lentement, l'alluma. « Et puis merde » conclut-il, en lançant une bouffée de fumée qui s'évanouit dans l'air. Tandis qu'une compagnie de chasseurs était dirigée vers le carrefour afin d'y établir les infranchissables barricades, mon régiment pénétrait dans la forêt afin d'y abattre le plus d'arbres qu'on pourrait. Toutes les cognées, serpes, hachettes du pays avaient été réquisitionnées d'urgence. On faisait outils de n'importe quoi. Durant la journée entière, les coups retentirent et les arbres tombèrent. Pour nous exciter davantage, le général voulut assister au massacre. « Oh, bougou, bougou !» criait-il à tout propos en frappant dans ses mains. « Ah, ah, allez, hardi, les enfants, secouez-moi ça !» Il désignait lui-même parmi les arbres les plus hauts de tronc, ceux qui avaient poussé droit et lisse comme des colonnes de temple. C'était une folie de destruction criminelle et bête, une joie de brute chaque fois que les arbres s'abattaient les uns sur les autres dans un grand fracas. La futaie s'éclaircissait. On eût dit qu'elle avait été fauchée par une gigantesque et surnaturelle faux. Deux hommes furent tués par la chute d'un chêne. Hardi, les gars! Hardi, les enfants! Et les quelques arbres restés debout, farouches au milieu des troncs écrasés, couchés à terre et les branches tordues, qui se dressaient vers eux pareils à des bras suppliants, montraient de larges blessures, des entailles profondes et rouges, par où la sève pleurait. Le conservateur des forêts, prévenu par un garde, accourut de ce longe et d'un œil navré constata cette inutile dévastation. J'étais près du général quand il aborda respectueusement le képi à la main. « Pardon, général, dit-il, que vous abattiez des arbres sur les bordures des routes, que vous barricadiez les lignes, je le comprends, mais que vous rasiez le cœur des futaies, cela me semble un peu... » Mais le général l'interrompit. « Hein, quoi, cela vous semble? Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Je fais ce qui me plaît, est-ce vous qui commandez ou moi ?» « Mais enfin, balbutia le forestier, il n'y a pas de mais enfin, monsieur. Et vous m'embêtez, c'est clair, ça. Et vous savez, les rentrez vite à ce longe ou je vous fais fourrer au bloc. Allez, hardi, les enfants !» Le général tourna le dos au fonctionnaire ahuri et partit en chassant devant lui du bout de sa canne des feuilles mortes et des brindilles de bois. De leur côté, pendant que nous profanions la forêt, les chasseurs ne chômaient point, et la barricade s'élevait formidable et haute, coupant la route en avant du carrefour. Oh, cela ne s'était pas exécuté sans difficulté, et surtout sans gaieté. Subitement arrêtés par une tranchée qui leur barrait la fuite, les paysans protestèrent. Leurs voitures et leurs troupeaux s'agglomérant dans le chemin très encaissé à cet endroit, il y eut d'abord un indescriptible brouhaha. Ils se lamentaient, les femmes gémissaient, les bœufs meuglaient, et les soldats riaient de toutes les mines effarées des hommes et des bêtes, et le capitaine qui commandait le détachement ne savait pas quelle résolution prendre. Plusieurs fois, les soldats firent semblant de refouler les paysans à coups de baïonnette, mais ceux-ci s'entêtaient, voulaient passer et invoquaient leur qualité de Français. Après avoir terminé son tour dans la forêt, le général vint visiter les travaux de la barricade. Il demanda ce que c'était que ces sales Pékins et ce qu'ils désiraient. On le mit au fait. C'est bien, s'écria-t-il. Empoigne-moi toutes ces voitures et fourrez-moi tout ça dans la barricade. Allons, chaud, allons, hardi les enfants. Les soldats, heureux de ces algarades, se ruèrent sur les premières voitures qui furent abandonnées avec ce qu'elles contenaient et brisées en quelques coups de pioche. Alors la panique s'empara des paysans. L'encombrement devenait tel qu'il leur était impossible d'avancer ou de reculer, fouettant leurs chevaux à court de bras et tâchant de dégager leurs charrettes accrochées. Ils vociféraient, se bousculaient, s'injuriaient, sans parvenir à faire un pas en arrière. Les derniers arrivés avaient rebroussé chemin et fuyaient au galop de leurs chevaux excités par la clameur, et les autres, désespérant de sauver voiture et provisions, prirent le parti d'escalader le talus et de s'en aller à travers champs, en poussant des cris d'indignation, poursuivis par les bottes de terre que leur jetaient les soldats. On entassa les voitures brisées l'une sur l'autre, on boucha les creux avec des sacs d'avoine, des matelas, des paquets de hardes et des pierres. Sur le sommet de la barricade, au haut d'un mont qui se dressait, tout droit comme une arme de drapeau, un petit chasseur arbora un bouquet de mariée trouvé dans le butin. Vers le soir, des bandes de mobiles arrivant de Chartres, très en désordre, se répandirent dans Bellomé et dans le camp. Ils firent des récits épouvantants. Les Prussiens étaient plus de 100 000, toute une armée, et eux, 2 000 à peine, sans cavaliers et sans canons, avaient dû se replier. Chartres brûlait, les villages alentour fumaient, les fermes étaient détruites. Le gros du détachement français qui soutenait la retraite ne pouvait tarder. On interrogeait les fuyards, on leur demandait s'ils avaient vu des Prussiens, comment ils étaient faits, insistant sur les détails des uniformes. Et de quart d'heure en quart d'heure, d'autres mobiles se présentaient par groupes de 3 ou 4, pâles, épuisés de fatigue. La plupart n'avaient pas de sac. Quelques-uns même pas de fusil, et ils racontaient des histoires plus terribles les unes que les autres. Aucun d'ailleurs n'était blessé. On se décida à les loger dans l'église. Au grand scandale du curé, qui levait les bras au ciel, s'exclamait « Sainte Vierge, dans mon église, ah, des soldats dans mon église !» Jusque-là, uniquement occupé à des fantaisies de destruction, le général n'avait point eu le temps de songer à faire garder Ricamp, autrement que par un petit poste établi à 1 kilomètre de Bellomère, sur la route de Chartres, dans un bouchon fréquenté des rouliers. Ce poste, commandé par un sergent, n'avait reçu aucune instruction précise, et les hommes ne faisaient rien, si long qu'ils flânaient, buvaient et dormaient. Pourtant, le factionnaire qui se promenait, nonchalant le fusil sur l'épaule devant l'auberge, arrêta un médecin du pays, comme espion allemand à cause de sa barbe qu'il avait blonde et de ses lunettes qui étaient bleues. Quant au sergent, ancien braconnier de profession, se moquant du tiers comme du quart, il s'amusait à tendre des collets aux lapins dans les haies voisines. L'arrivée des mobiles, la menace des Prussiens, avait jeté le désarroi parmi nous. Les cavaliers se succédaient de minute en minute, porteurs de plis cachetés, d'ordre et de contre-ordre. Les officiers couraient affairés, sans savoir pourquoi, perdaient la tête. 3 fois on nous commanda de lever le camp, et 3 fois on nous fit dresser les tentes à nouveau. Toute la nuit, trompettes et clairons sonnèrent, et de grands feux brûlèrent, autour desquels, dans une rumeur de plus en plus grandissante, passaient et repassaient des ombres étrangement agitées, des silhouettes démoniaques. Des patrouilles fouillaient la campagne en tous sens, s'enfonçait dans les traverses, sondait la lisière de la forêt. L'artillerie, parquée en deçà du bourg, dut se porter en avant, sur la hauteur, mais elle vint se heurter contre la barricade. Et pour livrer passage au canon, il fallut la démolir pièce par pièce et combler la tranchée. Au petit jour, ma compagnie partit en grande garde. Nous rencontrâmes des mobiles, des francs-tireurs égaillés qui tiraient la jambe lamentablement. Plus loin, le général, accompagné de son escorte, surveillait les manœuvres de l'artillerie. Il tenait, déplié sur le cou de son cheval, une carte d'état-major et cherchait en vain le moulin de Saussay. En se penchant sur la carte que les mouvements de tête du cheval déplaçaient à chaque instant, il criait « Mais où est-il ce sacré moulin-là ? Pongouin, Courville, Courville, est-ce qu'ils j'imagine que je connais tous leurs sacrés moulins, moi ?» Le général nous ordonna de faire halte et il nous demanda « Quelqu'un de vous est-il du pays ? Quelqu'un de vous sait-il où se trouve le moulin de Saussay ?» Personne ne répondit. « Non, oh, eh bien, que le diable emporte !» Il jeta la carte à son officier d'ordonnance qui se mit à la replier soigneusement. Nous continuâmes notre chemin. On installa la compagnie dans une ferme et je fus posté en sentinelle, tout près de la route, à l'entrée d'un boqueteau, d'où je découvrais la plaine immense et rase comme une mer. De-ci, de-là, des petits bois émergeaient de l'océan de terre, semblables à des îles. Des clochers de village, des fermes estompées par la brume, prenaient l'aspect de voiles lointaines. C'était, dans l'énorme étendue, un grand silence, une grande solitude, où le moindre bruit, où le moindre objet remuant sur le ciel, avait je ne sais quel mystère qui vous coulait dans l'âme une angoisse. Là-haut, des points noirs qui tachaient le ciel, c'étaient les corbeaux, là-bas, sur la terre, des points noirs qui s'enfonçaient, grossissaient, passaient, c'étaient les mobiles fuyards, et de temps en temps, la voix éloignée des chiens qui se répandaient de l'ouest à l'est, du nord au sud, semblait la plainte des champs déserts. Les factions devaient être relevées toutes les 4 heures, mais les heures et les heures s'écoulaient, lentes, infinies, et personne ne venait me remplacer. Sans doute on m'avait oublié. Le cœur serré, j'interrogeais l'horizon du côté des Prussiens, l'horizon du côté des Français. Je ne voyais rien, rien que cette ligne implacable et dure qui sertissait le grand ciel gris autour de moi. Depuis longtemps, les corbeaux avaient cessé de voler, les mobiles de fuir. Un moment, j'aperçus une charrette qui se rapprochait du bois où j'étais, mais elle tourna par une traverse, bientôt confondue avec le gris du terrain. Et pourquoi me laissait-on ainsi? J'avais faim et j'avais froid. Mon ventre criait, mes doigts devenaient gourds. Je me hasardai à faire quelques pas sur la route. À plusieurs reprises, j'appelais. Pas un être ne me répondit, pas une chose ne bougea. J'étais seul, bien seul, tout seul, en cette plaine abandonnée et vide. Un frisson courut dans mes veines et des larmes montèrent à mes yeux. J'appelais encore, rien. Alors je rentrai dans le bois et je m'assis au pied d'un chêne, mon fusil en travers de mes cuisses, l'oreille au guet, attendant. Hélas, le jour baissa peu à peu, le ciel jaunit, s'empourpra légèrement, puis il s'éteignit dans un silence de mort. Et la nuit tomba sans étoiles et sans lune sur les champs, tandis qu'une brume glacée se levait de l'ombre. Depuis que nous étions partis, brisé par les fatigues, toujours occupé à quelque chose, jamais seul, je n'avais pas eu le temps de réfléchir. Pourtant, devant les étranges et cruels spectacles que j'avais sans cesse sous les yeux, je sentais s'éveiller en moi la notion de la vie humaine, jusqu'ici endormie dans les égourdissements de mon enfance et les torpeurs de ma jeunesse. Oui, cela s'était réveillé confusément, comme au sortir d'un long et douloureux cauchemar. Et la réalité m'était apparue plus effrayante encore que le rêve. Transposant du petit groupe d'hommes errants que nous étions à la société tout entière, nos instincts, les appétits, les passions qui nous agitaient, rappelant les visions si rapides et seulement physiques que j'avais eues à Paris, des foules sauvages, des bousculades, des individus, je comprenais que la loi du monde, c'était la lutte, loi inexorable, homicide, qui ne se contentait pas d'armer les peuples entre eux, mais qui faisait se ruer l'un contre l'autre, les enfants d'une même race, d'une même famille, d'un même ventre. Je ne retrouvais aucune des abstractions sublimes d'honneur, de justice, de charité, de patrie, dont les livres classiques débordent, avec lesquels on nous élève, on nous berce, on nous hypnotise pour mieux duper les bons et les petits, les mieux asservir, les mieux égorger. Mais qu'était-ce donc que cette patrie, au nom de laquelle se commettaient tant de folies et tant de forfaits, qui nous avait arrachés, remplis d'amour à la nature maternelle, qui nous jetait, plein de haine, affamé et tout nu, sur la terre marâtre? Mais qu'était-ce donc que cette patrie qu'incarnait pour nous ce général imbécile et pillard qui s'acharnait après les vieux hommes et les vieux arbres, et ce chirurgien qui donnait des coups de pied aux malades et rudoyait les pauvres vieilles mères en deuil de leurs fils? Mais qu'était-ce donc cette patrie dont chaque pas sur le sol était marqué d'une fosse à qui il suffisait de regarder l'eau tranquille des fleuves pour la changer en sang, et qui s'en allait toujours, creusant de place en place des charniers plus profonds où viennent pourrir les meilleurs des enfants des hommes. Et j'éprouvais un sentiment de stupeur douloureuse en songeant pour la première fois que ceux-là seuls étaient les glorieux, les acclamés, qui avait le plus pillé, le plus massacré, le plus incendié. On condamne à mort le meurtrier timide qui tue le passant d'un coup de surin au détour des rues nocturnes, et l'on jette son tronc décapité aux sépultures infâmes. Mais le conquérant qui a brûlé les villes, décimé les peuples, toute la folie, toute la lâcheté humaine se coalise pour le hisser sur des pavois monstrueux. En son honneur, on dresse des arcs de triomphe, des colonnes vertigineuses de bronze, et dans les cathédrales, les foules s'agenouillent pieusement autour de son tombeau de marbre béni que gardent les saints et les anges, sous l'œil de Dieu charmé. Avec quel remords je me repentis d'avoir, jusqu'ici, passé aveugle et sourd dans cette vie si grosse d'énigmes inexpliquées. Jamais je n'avais ouvert un livre, jamais je ne m'étais arrêté un seul instant devant ces points d'interrogation que sont les choses et les êtres. Je ne savais rien. Et voilà que tout à coup la curiosité de savoir, le besoin d'arracher à la vie quelques-uns de ces mystères, me tourmentait. Je voulais connaître la raison humaine des religions qui abêtissent, des gouvernements qui oppriment, des sociétés qui tuent. Il me tardait d'en avoir fini avec cette guerre pour me consacrer à des besognes ardentes, à de magnifiques et absurdes apostolats. Ma pensée allait vers d'impossibles philosophies d'amour, des folies de fraternité inextinguibles. Tous les hommes, je les voyais courbés sous des poids écrasants, semblable au petit mobile de Saint-Michel, dont les yeux suintaient, qui toussaient et crachaient le sang. sans rien comprendre à la nécessité des lois supérieures de la nature. Des tendresses me montaient à la gorge en sanglots comprimés. J'ai remarqué que l'on ne s'attendrait bien sur les autres que ce qu'on est soi-même malheureux. N'était-ce pas sur moi seul que je m'apitoyais ainsi? Et si dans cette nuit froide, tout près de l'ennemi qui apparaîtrait peut-être dans les brumes du matin, j'aimais tant l'humanité, n'était-ce pas moi seul que j'aimais, moi seul que j'eusse voulu soustraire aux souffrances? Ces regrets du passé, ces projets d'avenir, cette passion subite de l'étude, cet acharnement que je mettais à me représenter plus tard dans ma chambre de la rue Oudinot, au milieu des livres de papier, les yeux brûlés par la fièvre du travail, n'était-ce pas seulement pour écarter de moi les menaces de l'heure présente, pour effacer d'autres images terribles, des images de mort qui sans cesse passaient livides dans l'horreur des ténèbres? La nuit se poursuivait impénétrable. Sous le soleil, ciel qui les couvait d'un regard avare et mauvais, les champs s'étendaient pareils à une vaste mer d'ombre. De loin en loin, des blancheurs sourdes, de longues traînées de brume flottaient au-dessus, rasant le sol invisible, où les bouquets d'arbres apparaissaient çà et là, plus noirs dans ce noir. Je n'avais point bougé de la place où je m'étais assis, et le froid m'engourdissait les membres, me gerçait les lèvres. Péniblement, je me levais et contournais le bois. Mes propres pas sur le sol m'effrayèrent. Il me semblait toujours que quelqu'un marchait derrière moi. J'avançais avec prudence sur la pointe des pieds, comme si j'eusse craint de réveiller la terre endormie, et j'écoutais et j'essayais de sonder l'obscurité, car je n'avais pas encore, malgré tout, perdu l'espoir qu'on va me relever. Aucun frisson, aucun souffle, aucune lueur, aucune forme précise dans cette nuit sans yeux et sans voix. Cependant, par deux fois, j'entendis distinctement un bruit de pas, et le cœur me battait très fort. Mais le bruit s'éloigna, diminua peu à peu, cessa, et le silence redevint plus pesant, plus redoutable, plus désespéré. Une branche me frôla le visage, je reculai, saisi d'épouvante. Plus loin, un renflement de terrain me fit l'effet d'un homme qui, bombant le dos, aurait rampé vers moi. Je chargeai mon fusil. À la vue d'une charrue abandonnée dont les deux bras se dressaient dans le ciel, comme des cornes menaçantes de monstres, le souffle me manqua et je faillis tomber à la renverse. J'avais peur de l'ombre, du silence, du moindre objet qui dépassait la ligne d'horizon et que mon imagination affolée animait d'un mouvement de vie sinistre. Malgré le froid, la sueur me coulait en grosses gouttes sur la peau. J'eus l'idée de quitter mon poste, de retourner au camp, me persuadant par d'ingénieux et larges raisonnements que les camarades m'avaient oublié et qu'ils seraient très heureux de me retrouver. Évidemment, puisque je n'avais pas été relevé de ma faction, puisque je n'avais vu passer aucune ronde d'officiers, c'est qu'ils étaient partis. Et si par hasard je me trompais, quelle excuse donner, comment serais-je reçu là-bas? Aller à la ferme où ma compagnie s'était arrêtée le matin et y demander des renseignements, oh, j'y songeais. Mais dans mon trouble, j'avais perdu le sentiment de l'orientation et je me serais infailliblement égaré en cette plaine immense et si noire. Alors une abominable pensée me traversa l'esprit. Oui, pourquoi ne pas me tirer un coup de fusil dans le bras et m'enfuir ensuite, sanglant et blessé, et raconter que j'avais été assailli par les Prussiens? Je fis un violent effort sur moi-même pour ressaisir ma raison qui s'envolait. Je rassemblai tout ce qui restait en moi de force morale afin de me soustraire à cette lâche et odieuse suggestion, à cette ivresse maudite de la peur, et je m'acharnai à retrouver les souvenirs d'autrefois, à évoquer de douces et souriantes images, aux souffles embaumés, aux ailes blanches. Et images et souvenirs m'arrivaient, ainsi qu'en un songe pénible, déformés, tronqués, hallucinés, et une terreur les mettait aussitôt en déroute. La Vierge de Saint-Michel, aux chairs si roses, au manteau bleu, constellée d'argent. Je la revoyais impudique, se prostituant sur un lit de bouge, à des soldats ivres. Les coins préférés de la forêt de Tourouvre, si paisibles où je m'étais tant à demeurer des journées entières, étendus sur de la mousse, se bouleversaient, s'enchevêtraient, brandissaient sur moi leurs arbres géants, puis dans l'air se croisaient des obus figurant des visages connus qui ricanaient. L'un de ces projectiles déploya soudain de grandes ailes, couleur de flamme, tourna autour de moi, m'enveloppa. Je poussai un cri. « Mon Dieu, allais-je donc devenir fou ?» Je me tâtai la gorge, la poitrine, les reins, les jambes. Je devais être d'une pâleur de cadavre, et je sentais un petit froid me monter au cœur, au cerveau, comme une vrille d'acier. « Voyons, voyons, me disais-je tout haut, pour bien m'assurer que je ne dormais pas, que j'existais. Allons, allons !» J'avalai en deux gorgées le reste d'eau-de-vie de ma gourde, et je me mis à marcher très vite, écrasant les mottes de terre sous mes pieds, avec rage, sifflant l'air d'une chanson de piou-piou que nous entendions en chœur pour tromper la longueur des étapes. Un peu calmé, je regagnai mon chêne et bâtis la semelle à coup précipité contre le tronc. Oh, j'avais besoin de ce bruit, de ce mouvement. Et voilà que je pensais à mon père, si seul dans le prieuré. Il y avait plus de 3 semaines que je n'avais pas reçu de lettre de lui. Oh, comme la dernière était triste et navrante. Oh, il ne se plaignait de rien, mais on y sentait un découragement profond, un ennui d'être dans cette grande maison vide, et un effroi de me savoir errant, sac au dos, à travers le hasard des batailles. Pauvre père, il n'avait pas été heureux avec ma mère, malade, toujours irritée, qui ne l'aimait pas et ne pouvait supporter sa présence près d'elle. Et jamais, au plus fort des rebuffades et des duretés, jamais un geste de colère, jamais un mot de reproche. Il courbait le dos ainsi qu'un bon chien et s'en allait. Ah, comme je me repentais de n'avoir pas assez aimé. Peut-être ne m'avait-il pas élevé comme il aurait dû. Mais qu'importe, il avait fait ce qu'il avait pu. Lui-même était sans expérience de la vie, sans force contre le mal, d'une bonté timide et peureuse. Et à mesure que les traits de mon père se représentaient à moi, jusque dans leurs moindres détails, le visage de ma mère s'embrumait, s'effaçait, et je ne pouvais plus en rappeler les contours chéris. Dans cet instant, toutes les tendresses que j'avais données à ma mère, je les reportais sur mon père. Je me souvenais avec attendrissement quand, le jour de la mort de ma mère, me prenant sur ses genoux, il me dit « Cela vaut peut-être mieux ainsi. » Et je comprenais aujourd'hui tout ce que cette phrase résumait de douleur passée et d'épouvantement dans l'avenir. C'était pour elle qu'il disait cela, pour moi aussi, qui ressemblait tant à ma mère, et non pour lui, le malheureux homme, qui s'était résigné à tout souffrir. Oh, depuis 3 ans, il avait bien vieilli. Sa haute taille se cassait, son visage, si rouge de santé, jaunissait et se ridait. Ses cheveux devenaient presque blancs. Il ne guettait plus les oiseaux du parc, laissait les chats brousser dans les lianes et lapait l'eau du bassin, À peine s'il intéressait encore à son étude, dont il abandonnait la direction au premier clerc, homme de confiance qui le volait, ne s'occupait plus de ses petites affaires d'ambition locale. Il ne fut point sorti, n'eut point bougé de son fauteuil à oreillette, qu'il avait fait descendre à la cuisine, ne voulant pas rester seul, sans mari, qui lui apportait sa canne et son chapeau. « Allons, monsieur, y formez un peu, vous êtes tout ubi, là, dans votre coin. »« Bien, bien, Marie, je vais remuer. Je vais aller au bord de la rivière, si tu veux. »« Non, monsieur, c'est dans la forêt qu'il faut que vous alliez. L'air vous vaut mieux, là. » « Bien, bien, Marie, je vais aller dans la forêt. » Et parfois, le voyant alourdi, ensommeillé, elle lui frappait sur l'épaule. « Pourquoi ne vous prenez pas votre fusil, monsieur? Il y a joliment des poissons dans le parc. » Et mon père, la regardant d'un air de reproche, murmurait « Des pinsons? Oh, les pauvres bêtes !» Pourquoi mon père ne m'écrivait-il plus? Mes lettres lui parvenaient-elles seulement? Je me reprochais d'y avoir mis jusqu'ici trop de sécheresse, et je me promis bien de lui écrire le lendemain, dès que je le pourrais, une longue, affectueuse lettre, dans laquelle je laisserais déborder tout mon cœur. Le ciel s'éclaircissait légèrement là-bas à l'horizon, dont le contour se découpait plus net sur une lueur plus bleue. C'était toujours la nuit, les champs restaient sombres, mais on sentait que l'aube se faisait proche. Le froid piquait plus dur, la terre craquait plus ferme sous les pas, l'humidité se cristallisait aux branches des arbres. Et peu à peu, le ciel s'illumina d'une lueur d'or pâle grandissante. Lentement, des formes sortaient de l'ombre, encore incertaines et brouillées. Le noir opaque de la plaine se chargeait en un violet sourd que des clartés rasaient de distance en distance. Tout à coup, un bruit m'arriva, faible d'abord comme le roulement très lointain d'un tambour. J'écoutais, le cœur battant. Un moment, le bruit cessa et des coqs chantèrent. Au bout de 10 minutes, peut-être, il reprit plus fort, plus distinct, se rapprochant. Patara, patara, c'était sur la route de Chartres un galop de cheval. Instinctivement, je bouclai mon sac sur mon dos et m'assurai que mon fusil était chargé. J'étais très ému, les veines de mes tempes se gonflaient. Patara, patara, oh, cela devait être tout près de moi, ce galop, car il me semblait que je percevais le souffle du cheval et des tintements clairs d'acier. Patara, patara. À peine avais-je eu le temps de m'accroupir derrière le chêne, qu'à 20 pas de moi, sur la route, une grande ombre s'était dressée, subitement immobile, comme une statue équestre de bronze. Et cette ombre, qui s'élevait presque entière, énorme, sur la lumière du ciel oriental, était terrible. L'homme me parut surhumain, agrandi dans le ciel démesurément. Il portait la casquette plate des Prussiens, une longue capote noire sous laquelle la poitrine bombait largement. Était-ce un officier, un simple soldat? Je ne savais, car je ne distinguais aucun insigne de grade sur le sombre uniforme. Les traits, d'abord indécis, s'accentuèrent. Il avait des yeux clairs, très limpides, une barbe blonde, une allure de puissante jeunesse. Son visage respirait la force et la bonté, avec je ne sais quoi de noble, d'audacieux et de triste qui me frappa. La main à plat sur la cuisse, il interrogeait la campagne devant lui, et de temps en temps, le cheval grattait le sol du sabot et soufflait dans l'air par les naseaux frémissants de longs jets de vapeur. Évidemment, ce Prussien était là en éclaireur. Il venait afin de se rendre compte de nos positions, de l'état du terrain, et toute une armée grouillait sans doute derrière lui, n'attendant pour se jeter sur la plaine qu'un signal de cet homme. Bien caché dans mon bois immobile, le fusil prêt, je l'examinais. Il était beau. Vraiment, la vie coulait à plein dans ce corps robuste. Quelle pitié! Il regardait toujours la campagne et je crus m'apercevoir qu'il la regardait plus en poète qu'en soldat. Je surprenais dans ses yeux une émotion. Peut-être oubliait-il pourquoi il se trouvait là et se laissait-il gagner par la beauté de ce matin, jeune, virginal et triomphant. Le ciel était devenu tout rouge, il tombait glorieusement, il flambait, et les champs réveillés s'étiraient, sortaient l'un après l'autre de leurs voiles de vapeur rose et bleue, qui flottaient ainsi que de longues écharpes, doucement agitées par d'invisibles mains. Des arbres grêles, des chaumines émergeaient de tout ce rose et de tout ce bleu. Le pigeonnier d'une grande ferme, dont les toits de tuiles neuves commençaient de briller, dressait son cône blanchâtre dans l'ardeur pourprée de l'Orient. Oui, ce Prussien parti avec des idées de massacre s'était arrêté, ébloui et pieusement remué devant les splendeurs du jour renaissant, et son âme pour quelques minutes était conquise à l'amour. C'est un poète, peut-être, me disais-je, un artiste. Il est bon, puisqu'il s'attendrit. Et sur sa physionomie, je suivais toutes les sensations de brave homme qui l'animaient, tous les frissons, tous les délicats et mobiles reflets de son cœur ému et charmé. Il ne m'effrayait plus. Au contraire, quelque chose comme un vertige m'attirait vers lui, et je dus me cramponner à mon arbre pour ne pas aller auprès de cet homme. J'aurais désiré lui parler, lui dire que c'était bien de contempler le ciel ainsi, et que je l'aimais de ses extases. Mais son visage s'assombrit, une mélancolie voila ses yeux. Oh, l'horizon qu'ils embrassaient est si loin, si loin. Et par-delà cet horizon, un autre, et derrière cet autre, un autre encore. Faudrait conquérir tout cela. Quand donc aura-t-il fini de toujours pousser son cheval sur cette terre nostalgique, de toujours se frayer un chemin à travers les ruines des choses et la mort des hommes, de toujours tuer, de toujours être maudit? Et puis, sans doute, il songeait à ce qu'il avait quitté, à sa maison qu'emplissait le rire de ses enfants, à sa femme qu'il attendait en priant Dieu. Les reverrait-il jamais? Je suis convaincu qu'à cette minute même, il évoquait les détails les plus fugitifs, les habitudes les plus délicieusement enfantines de son existence de là-bas. Une rose cueillie un soir après dîner, dont il avait orné les cheveux de sa femme, la robe que celle-ci portait quand il était parti, un nœud bleu au chapeau de sa petite fille, un cheval de bois, un arbre, un coin de rivière, un coupe-papier. Tous les souvenirs de ses joies bénies lui revenaient, et avec cette puissante vision qu'ont les exilés, il embrassait d'un seul regard découragé tout ce par quoi jusqu'ici il avait été heureux. Et le soleil se leva, élargissant encore la plaine, reculant encore plus loin le lointain horizon. Cet homme, j'avais pitié de lui, et je l'aimais, oui, je vous le jure, je l'aimais. Alors comment cela s'est-il fait? Une détonation éclata, et dans le même temps que j'avais entrevu à travers un rond de fumée et une botte en l'air, le pan tordu d'une capote, une crinière folle qui volait sur la route, plus rien. J'avais entendu le heurt d'un sabre, la chute lourde d'un corps, le bruit furieux d'un galop, puis rien. Mon arme était chaude et de la fumée s'en échappait. Je la laissais tomber à terre. Étais-je le jouet d'une hallucination? Mais non! De la grande ombre qui se dressait au milieu de la route, comme une statue équestre de bronze, il ne restait plus rien qu'un petit cadavre tout noir, couché la face contre le sol, les bras en croix. Je me rappelais le pauvre chat que mon père avait tué, alors que de ses yeux charmés, il suivait dans l'espace le vol d'un papillon. Et moi, stupidement, inconsciemment, j'avais tué un homme que j'aimais, un homme en qui mon âme venait de se confondre, un homme qui, dans l'éblouissement du soleil levant, suivait les rêves les plus purs de sa vie. Je l'avais peut-être tué à l'instant précis où cet homme se disait « Et quand je reviendrai là-bas, mais comment, mais pourquoi ? Puisque je l'aimais, puisque si ces soldats l'avaient menacé, je l'eusse défendu, lui que j'avais assassiné. » En deux bonds, je fus près de l'homme. Je l'appelai, il ne bougea pas. Ma balle lui avait traversé le cou au-dessous de l'oreille, et le sang coulait d'une veine rompue avec un bruit de glou-glou. S'étalait en main rouge, poissait déjà sa barbe. De mes mains tremblantes, je le soulevai légèrement, et la tête oscilla, retomba inerte et pesante. Je lui tâtai la poitrine à la place du cœur, le cœur ne battait plus. Alors je le soulevai davantage, maintenant sa tête sur mes genoux, et tout à coup je vis ses deux yeux clairs, qui me regardaient tristement, sans une haine, sans un reproche, ses deux yeux qui semblaient vivants. Oh, je crus que j'allais défaillir, mais rassemblant mes forces dans un suprême effort, j'étreignis le cadavre du Prussien, le plantai tout droit contre moi, et collant mes lèvres sur ce visage sanglant d'où pendaient de longues baves pourprées, éperdument, je l'embrassai. À partir de ce moment, je ne me souviens pas bien. Je revois de la fumée, des plaines couvertes de neige et de ruines qui brûlaient sans cesse. Toujours des fuites mornes, des marches hallucinantes dans la nuit, des bousculades au fond des chemins creux, encombrés par les fourgons des munitionnaires, où des dragons, la latte en l'air, poussaient sur nous leurs chevaux et cherchaient à se frayer un chemin à travers les voitures. Je revois des carrioles funèbres pleines de cadavres de jeunes hommes que nous enfouissions au petit jour dans la terre gelée, en nous disant que ce serait de retour le lendemain. Je revois, près des affûts de canons, émiettés par des obus, de grandes carcasses de chevaux, raidis, défoncés, sur lesquels le soir nous nous acharnions, dont nous emportions jusque sous nos tentes des quartiers saignants que nous dévorions en grognant, en montrant les crocs comme des loups. Et je revois le chirurgien, les manches de sa tunique retroussées, la pipe aux dents, désarticulé sur une table dans une ferme à la lueur fumeuse d'un oribus, le pied d'un petit soldat encore chaussé de ses godillots. Mais je revois surtout le prieuré, quand bien là, tout endormi de ses souffrances et tout meurtri par ses navrements de la défaite, j'y rentrai un jour de clair soleil. Les fenêtres de la grande maison étaient closes, les persiennes mises partout. Félix, plus courbé, ratissait l'allée, et Marie, assise près de la porte de la cuisine, tricotait une paire de bas en dodelinant de la tête. « eh bien, criai-je, c'est comme cela qu'on me reçoit ?» Dès qu'ils m'eurent aperçu, Félix s'en alla comme effaré et Marie, toute blanche, poussa un cri. « Et qu'y a-t-il donc ? » demandai-je, le cœur serré. « Et mon père ?» La vieille fille me regarda fixement. « Mais comment vous ne saviez pas ? Vous n'aviez rien reçu ? Oh, mon pauvre monsieur Jean ! Mon pauvre monsieur Jean !» Et les yeux pleins de larmes, elle étendit le bras dans la direction du cimetière. Oui, c'est là qu'il est maintenant, avec madame, fit-elle d'une voix sourde.